Comment passer en un instant du statut de pays voyou à celui de pays respectable? C'est très simple. Il faut faire plaisir aux États-Unis et surtout leur permettre de siphonner votre pétrole. J'exagère naturellement, mais il faut bien admettre que la réhabilitation express de la Libye, admise à nouveau à prendre sa place dans le concert des nations, a de quoi surprendre. Bien sûr, le colonel Kadhafi a fait patte de velours, il a admis posséder des armes de destruction massive et s'est engagé à les détruire, et s'est promis, il cessera de se mêler de ce qui ne le regarde pas, mais il faut se rappeler que c'était le même homme que le président Reagan traitait de chien enragé du Proche-Orient dans les années 80. Et il n'y a pas si longtemps, tout de suite après la tragédie du 11 septembre 2001, Washington considérait que la Libye était l'un des 7 pays qualifiés de commanditaires du terrorisme. Le revirement est donc spectaculaire et je vous l'ai dit, il a un fort goût de pétrole. Car le sous-sol libyen est riche, très riche, plus riche même que le sous-sol algérien. Et aux yeux des experts, il est encore sous-exploité. D'autre part, il est certain que Kadhafi avait besoin de rétablir une situation sociale dégradée et une économie en perte de vitesse. Son intérêt immédiat était donc de se rapprocher de ces anglo-saxons dont il avait dit pique-pendre pendant de si longues années. Mais, il faut le souligner, si Kadhafi, au cours des négociations secrètes qui ont été menées avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, a été conduit à faire beaucoup de concessions, ses interlocuteurs ne lui ont demandé à aucun moment de rétablir la démocratie dans son pays et d'y respecter les droits de l'homme. La contrition de Kadhafi est donc bien limitée et George W. Bush et Tony Blair ont semblé s'en accommoder très facilement. Passons. Et revenons avec M. X sur les relations tumultueuses de la Libye avec les États-Unis, en particulier sur les raids aériens américains de 1986, des raids dont l'objectif était vraisemblablement l'assassinat du leader libyen. Et vous vous apercevrez que ce sujet est d'une brûlante actualité et que de nombreuses comparaisons s'imposent.
Muammar Kadhafi, disons-le tout de suite, a tout pour agacer. Il est imprévisible, il est fantasque, il a une fâcheuse tendance à mettre son nez un peu partout.
Ouais, c'est un trublion.
Oui, plutôt un lion. Souvenez-vous de ses projets de mariage.
Oui, de mariage politique, vous voulez dire.
Ah, naturellement. Son grand rêve, qu'il a abandonné depuis, heureusement, c'était l'unité arabe. Et il va proposer la botte, enfin, pardonnez-moi la grossièreté de cette expression, à pratiquement tous les pays de la région. À l'Égypte d'abord. L'Égypte de Kamal Abdel Nasser, qui est alors son modèle et son maître à penser.
Oui, ça ne se fera pas. Hein.
Non, non. Nasser était bien trop prudent pour céder aux foucades de son jeune voisin. Alors, il y aura ensuite la Syrie, le Soudan, la Tunisie, l'Algérie, le Tchad et même le plus lointain Maroc.
J'imagine mal le roi Hassan II accepter cette union.
Hein. Ouais, là, vous avez raison. Donc, à chaque fois, ces propositions de mariage se traduiront par des échecs, même si certaines verront une amorce de réalisation. Tout ça pour vous dire que Kadhafi est un personnage surprenant.
Oui, et qui aime surprendre.
Ah, c'est exact. Il y a eu longtemps une sorte de vision messianique de son rôle dans le monde arabe. Il n'est pas inutile de souligner qu'il se fait appeler le guide. Mmh. Cependant, vous le savez, il semble s'être calmé. Et les récents événements n'y sont sans doute pas pour rien.
Oui, c'est-à-dire la deuxième guerre du Golfe. Hein.
Certainement. Kadhafi a eu peur. Et à mon avis, il a eu raison d'avoir peur. Mais nous en reparlerons, comme nous reparlerons des liens du leader libyen avec le terrorisme. Encore qu'il faille être très prudent, car on ne prête qu'aux riches.
Ouais. Vous voulez dire qu'on a attribué à Kadhafi des actes terroristes dont il n'était pas le commanditaire ou
le responsable? Je le pense, oui. Ouais. Mais c'était assez pratique. Dès qu'une bombe sautait quelque part dans le monde, on voyait la main de Kadhafi.
Au fond, un peu comme Al-Qaïda et Ben Laden aujourd'hui.
Exactement.
Hein.
Comme si notre monde manichéen avait besoin de personnifier le mal, pour reprendre la fameuse expression de Bush. Enfin, n'allons pas trop vite et faisons un petit retour en arrière, si vous le voulez bien. Mm-hmm, c'est bien. En 1969 que ce jeune capitaine de 27 ans, aidé par quelques autres officiers, chasse le vieux roi Idriss.
Exactement l'imitation de Nasser en Égypte, alors.
Tout à fait, mais enfin, je vous l'ai dit, Kadhafi s'inspire directement de Nasser. Ces officiers, libres, comme ils s'appellent eux-mêmes, mettent en place un pouvoir militaire collégial. Mais incontestablement, c'est Kadhafi qui mène le jeu.
Alors, bon, sans approfondir à l'excès, hein, quelle est l'idéologie de ce mouvement des officiers libres, là ?
C'est un curieux mélange. On y trouve du socialisme, de l'islamisme, puisque ces officiers prônent un strict respect du Coran. Mais cette idéologie emprunte aussi à Rousseau et même à Fourier. Le pouvoir doit être exercé par le peuple. Les masses, comme dit Kadhafi. C'est la naissance de la Jamaïria, la République arabe libyenne, populaire et socialiste. Et vous vous en souvenez sans doute, Kadhafi formalisera lui-même toutes ses utopies dans son petit livre vert.
Vert, comme la couleur de l'islam.
Oui, on assiste donc à la mise en place d'un pouvoir pyramidal. En bas, il y a de nombreux comités qui expriment les aspirations du peuple. Et en haut, il y a le guide qui est censé traduire ses aspirations dans les faits. Et ça marche tant bien que mal, parce que la sécurité d'État est très efficace, et que la Libye est assise sur un véritable matelas d'or.
Ah oui, le pétrole.
Oui, le pétrole, oui. Qui est alors la seule richesse du pays. Mais une richesse quasiment inépuisable, et puis ça donne rapidement des idées à Kadhafi. Mais
que cherche-t-il, au fond?
Le pétrole libyen a été découvert en 1961.
Ouais. Il aurait même pu l'être avant, si on avait suivi les géniales intuitions du français Kourat Kilian.
C'est juste, et on en a déjà parlé, parce qu'on ne sait toujours pas dans quelles conditions ce grand ingénieur a trouvé la mort. Bon, donc, n'y revenons pas, mais dès la découverte de ces gisements de pétrole, les grandes compagnies internationales, mais elles sont surtout américaines, se précipitent en Libye et avec l'aval du roi Idriss, elles commencent l'exploitation à grande échelle.
En versant quand même des redevances sur le pétrole produit.
Bah, naturellement.
Ouais. Et alors, quand Kadhafi arrive au pouvoir?
Il nationalise une grande partie de l'économie, mais il se garde bien de s'en prendre au secteur pétrolier.
Alors que d'autres pays ayant des systèmes, disons, politiques comparables, on choisit au contraire de nationaliser leur industrie du pétrole.
C'est exact. Mmh. Mais Kadhafi, dans cette affaire, est exceptionnellement prudent.
Pour une fois.
Oui, et il attendra 1973 pour nationaliser à 51% les compagnies pétrolières installées dans son pays. Toutefois, peu après sa prise de pouvoir, il décide d'une importante augmentation du prix du brut.
Oui, ça se traduit automatiquement par une augmentation des ressources de la Libye.
Bien sûr. Et en 1973, rebelote, le prix du pétrole explose. Et avec lui, le produit national libyen. Ça permet à Kadhafi de lancer un vaste programme de modernisation et aussi des travaux pharaoniques.
Oui, c'est l'irrigation,
oui,
c'est ça.
Oui, c'est une véritable rivière artificielle de près de 1000 km qui doit acheminer l'eau des grandes oasis du sud vers les côtes. Enfin, pressons le pas. Si
vous je vous en prie pour une fois.
Allons. Bon, Kadhafi, je vous l'ai dit, se considère investi d'une mission.
Oui, le panarabisme.
Pas seulement. Au fond, l'ambition de ce type, c'est d'être l'opposant mondial numéro un.
Oui, mais opposant à quoi alors?
À l'impérialisme en général. Et comme il est riche, il va soutenir financièrement un certain nombre de mouvements révolutionnaires de libération ou d'inspiration tiers-mondiste. C'est ainsi, peu à peu, qu'il est amené à aider, et même parfois à accueillir en Libye, quelques organisations terroristes ou considérées comme telles.
Carlos et les autres?
En particulier, oui.
C'est donc un adversaire naturel de l'Occident.
Surtout des États-Unis et bien sûr d'Israël.
Mais est-ce que pour autant il se rapproche de l'URSS?
Non. Non, Kadhafi se méfie beaucoup des communistes et de ce qu'il faut bien appeler l'impérialisme soviétique. Par conséquent, il entretiendra toujours des relations distantes avec Moscou, même si progressivement l'URSS deviendra son principal fournisseur d'armes. Mais à mon avis, c'est uniquement parce que les pays occidentaux décréteront un embargo sur les livraisons de matériel militaire à destination de la Libye.
Préalablement, la France a très largement contribué à armer Kadhafi.
Oui, nous lui avons vendu pas mal de mirages, de super frelons et des tas d'autres choses. C'est vrai, mais pas seulement des avions, comme je le dis. Toutefois, vous savez, nos relations vont se tendre avec la Libye.
Oui, c'est à cause du Tchad, ça.
Oui, après avoir échoué à unir son pays à l'Égypte puis à la Tunisie, Kadhafi regarde vers le Grand Sud.
C'est-à-dire vers le Soudan et le Tchad.
C'est ça, on reparlera du Soudan. Mais voyons d'abord le Tchad. Les deux pays ont un litige frontalier qui existe depuis des dizaines d'années. En fait, pour être plus précis, depuis que Laval et Mussolini se sont accordés pour se partager ces immenses territoires quasi désertiques.
Et le différent, c'est la fameuse bande d'Aouzou.
Oui, une bande de terre qui sépare les deux pays et qui a été attribuée au terme de ce partage au Tchad, qui était alors une colonie française. Dès 1973, Kadhafi ne fait pas mystère de ses visées expansionnistes.
Oui, et ça ne doit pas plaire à Paris.
Forcément. Le Tchad, bien qu'indépendant, fait encore partie du précaré de la France. Nous y entretenons d'ailleurs une importante garnison. Mais il n'y a pas que le Tchad. Kadhafi entretient l'agitation dans un certain nombre de pays africains francophones.
Des pays de la France-Afrique, enfin, pour reprendre l'expression de
Vachave. Oui, des pays indépendants, mais qui demeurent économiquement et politiquement très étroitement liés à notre pays. Et le Libyen, avec lequel nous entretenions d'excellents rapports lorsqu'il achetait nos armes, commence à nous agacer sérieusement.
Étrange et complexe personnage que Muammar Kadhafi. Voici par exemple ce qu'en disent Mouna Naïm et Patrice Claude dans un récent article du Monde, je les cite. Né dans une famille pauvre et très croyante de la tribu des Kadhafa. Diplômé de la faculté de droit et de l'académie militaire de Benghazi, il fit aussi un stage de perfectionnement en Grande-Bretagne. Le colonel a toujours été un anticommuniste farouche. L'islam, qu'il pratique avec ferveur, sans jamais verser dans l'intégrisme, tient une place importante dans sa vision du monde. Longtemps pour lui, être arabe, c'était forcément être musulman. Dans les années 80, à propos du Liban ravagé par la guerre civile, il n'hésitera pas à dire que l'erreur tient au fait qu'il existe des chrétiens dans ce pays et que les Arabes doivent lutter pour qu'ils deviennent tous musulmans. Kadhafi n'en prône pas moins un islam réformiste. Au mépris des accusations d'apostasie dont il est la cible de la part des barbus, il s'attaque aux convictions les plus rigides quant au statut de la femme qu'il fera énormément évoluer dans son pays, voire à l'authenticité de certaines paroles attribuées au prophète ou à la charia qu'il tient pour un droit positif parmi d'autres. La politisation de l'islam est sa bête noire. Dans les années 90, il aura d'ailleurs maille à partir avec ses islamistes et ne manquera plus jamais de rappeler à ses interlocuteurs que dès cette époque-là, il mettait tout le monde en garde contre Al-Qaïda. La lutte internationale désormais engagée contre l'organisation et ses clones le comble d'aise, même s'il fait valoir qu'il faut traiter le mal à la racine et qu'il ne suffit pas de croiser le fer pour y arriver.
Alors, ces tentatives pour se débarrasser de Kadhafi.
Je vais aller très vite car il semble que nous en avons parlé il y a très longtemps.
Oui, je me souviens.
C'est le SDEC, oui. Ouais. L'ancêtre de nos services de renseignement actuels qui va être mis à la tâche.
Mais sur ordre du gouvernement, forcément.
C'est l'Élysée qui dirige la manœuvre avec le chef du SDEC, le célèbre Alexandre de Maranche. Et nos services vont agir seuls.
Et pourquoi ? De qui auraient-ils pu attendre une coopération ?
De leurs homologues américains, par exemple. Parce que l'action souterraine de Kadhafi et le soutien qu'il accorde aux organisations terroristes les concernent aussi, au premier chef. Mais non, les États-Unis ne veulent pas se mouiller.
Alors qu'ils le feront plus tard, hein ?
Vous avez raison, c'est assez paradoxal. Mais il ne faut pas oublier qu'au milieu des années 70, la CIA traverse alors une des plus graves crises de son histoire. Alors, il nous faudra compter que sur quelques collaborations régionales. Celles des services égyptiens, par exemple, qui n'ont plus qu'assez de leurs bouillons voisins.
Alors, qu'est-ce qui est prévu ?
On tente d'abord d'inciter un compagnon de Kadhafi de faire un putsch. Mais ça échoue lamentablement. Puis on encourage les opposants...
Quand vous dit-on, c'est toujours les Français.
Hein, oui. Et on encourage donc les opposants libyens exilés. On leur donne même un petit coup de main pour effectuer des opérations de commando à l'intérieur même du territoire libyen. Là non plus, ça n'est pas très probant.
Pourquoi ? Parce que les services de sécurité libyens sont efficaces ?
Très efficaces, oui. Alors nos services doivent passer à la vitesse supérieure. Parce que Kadhafi en prend de plus en plus à son aise. Il suscite une insurrection en Tunisie. Une opération qui est jugulée par l'intervention directe du service action du SDEC. Il y aura des dizaines de morts. Et ça nous vaudra la mise à sac de notre ambassade à Tripoli.
Et donc une quasi-rupture avec la Libye ?
Évidemment. Ça ne s'arrange pas parce que Kadhafi fait les yeux doux à l'empereur Bokassa. Bokassa, qui est devenu l'ennemi personnel du président Giscard d'Estaing.
Ah oui, ça c'est l'affaire des diamants.
Oui, bien sûr. Et notez-le bien, lorsque Bokassa sera chassé par nos paras, c'est chez Kadhafi qu'il ira provisoirement trouver refuge. Puis il y a le Tchad. Et là aussi, du point de vue français, le colonel a passé la mesure, car il soutient maintenant militairement les rebelles du Tibesti.
C'est-à-dire au nord du pays.
Et donc près de cette fameuse bande d'Aouzoum. C'est donc pour toutes ces raisons que l'Élysée décide d'accélérer. Et ça se fait en plusieurs étapes. La désinformation, d'abord. On fait courir le bruit que Kadhafi a été victime d'un attentat et qu'il a été blessé.
Vrai ?
Faux.
Mais attendez, l'objectif poursuivi ?
Faire savoir à tous les opposants libyens que le colonel n'est pas intouchable. Ensuite, on met au point une opération beaucoup plus audacieuse. La liquidation physique de Kadhafi. Mais là, il me faut être très prudent parce que rien n'a jamais été établi avec certitude.
Cette prudence, vous adore, elle est pas si fréquente. Hein.
Écoutez, je vous en prie, je ne crois pas avoir été souvent démenti.
Admettons. Alors, cette tentative d'assassinat...
Les services secrets occidentaux apprennent que Kadhafi doit se rendre en avion à Varsovie. Et il aurait été décidé d'abattre son avion.
J'observe que vous employez le conditionnel.
Oui, car encore une fois, cette affaire n'a jamais vraiment été éclaircie. Voyons toutefois ce qui s'est sans doute passé. Un ou plusieurs chasseurs positionnés sur une base de l'OTAN en Sicile sont prêts à passer à l'action dès que la nouvelle du décollage de l'avion du colonel sera annoncée.
Et ces chasseurs-là sont de quelle nationalité ?
Français, américain, britannique ou même italien, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ce sont des appareils occidentaux et la suite le prouvera.
Mais pourquoi ?
Une seconde, laissez-moi poursuivre. Quand le feu vert est donné, le ou les chasseurs décollent, Mais tout se complique quand ces avions se trouvent pratiquement nez à nez avec deux MiG-23 libyens.
Et d'où viennent-ils, ceux-là ?
À mon avis, ils escortent l'appareil qui transporte Kadhafi.
Oui, une escorte de protection.
Oui, certainement. Et immédiatement, la bagarre s'engage. Une bataille inégale parce que les MiG libyens ne sont pas de force face à des chasseurs occidentaux modernes. Et l'un, au moins, des appareils libyens pour échapper à son ou ses agresseurs va ruser. Il profite du passage d'un DC-9 commercial italien pour tenter de confondre sa trace thermique avec celle de ce dernier avion.
Mais attendez, c'est la tragédie d'Oustika là que vous me racontez.
Exactement.
Alors, permettez-moi là une parenthèse. Il se trouve qu'il n'y a pas si longtemps, un auditeur qui séjourne en Allemagne, monsieur Bezuel, si je me souviens bien, m'a demandé si vous aviez des lumières sur le crash inexpliqué de ce DC-9, un crash qui s'est produit au nord de la Sicile, près de la petite île d'Oustika.
Alors j'espère qu'il se satisfera de mon hypothèse.
J'espère.
Mais reprenons. Ce MiG-23 donc essaye de leurrer son agresseur. Et lorsque celui-ci tire, son missile atteint non pas l'avion libyen, mais le DC-9 italien. Il y aura plusieurs dizaines de morts.
Ouais. Et vous m'avez avancé des éléments de preuve.
Hein. J'y viens. Ouais. La première, c'est le crash d'un des MiG-23 libyens, à peu près au moment où le DC-9 a péri en mer. Il s'est écrasé pas très loin, en Calabre. Curieuse coïncidence, non ?
Et ce MiG aurait été abattu ?
Vraisemblablement. Ouais. À moins qu'il n'ait effectué une fausse manœuvre pour échapper à ses assaillants.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est l'un des deux MiG qui a tiré sur le DC-9 italien ?
On en a effectivement parlé. Comme on a évoqué la possibilité de la présence d'une bombe à bord. On a aussi noté que, curieusement, les radars locaux ne fonctionnaient pas ce jour-là.
Mais c'était vrai ?
Non, on s'en est rendu compte longtemps après. Il y a eu une volonté de falsification. Et les spécialistes qui ont alors examiné les enregistrements des radars ont observé la présence de plusieurs avions dans le ciel de Sicile.
Ouais. Voilà, cette histoire de radar, c'était donc un trucage pour masquer une vérité bien embarrassante ?
Je le pense, oui. Et la preuve, la vraie, a été obtenue beaucoup plus tard quand un juge obtiendra qu'on remonte la carcasse du DC-9. Des experts en examinant les débris en concluant que l'appareil a été abattu par un missile. Un missile qui n'est pas utilisé par l'aviation libyenne, mais seulement par les chasseurs de l'OTAN. J'ajoute que l'enquête judiciaire traînera pendant des années.
Avec quel résultat ?
Dans ses conclusions, le juge d'instruction italien écrira que le DC-9 a été abattu par erreur au cours d'une bataille aérienne.
Oui, c'est pas mouillé, quoi, parce qu'il n'a pas été plus précis sur l'identité des protagonistes.
Non, ensuite, il y a certainement eu un procès, mais j'avoue, je n'en sais pas plus.
Alors, je reviens là. L'auditeur qui m'a écrit affirme qu'un général italien qui effectuait la liaison avec les services de l'OTAN et qui était un témoin clé de cette affaire a été assassiné dans les années 90 à Bruxelles. Vous le saviez-vous ?
Non, j'avoue tout ignorer de cet aspect de l'affaire, mais j'essaierai d'en savoir plus.
J'y compte. Hein.
En tout cas, ce qui est notable, c'est que Kadhafi, lui, est arrivé à bon port à Varsovie. Grâce à cet engagement aérien, son appareil a pu poursuivre son vol sans encombre.
Bon, c'est donc un nouvel échec pour ceux qui voulaient le supprimer.
Oui, mais qui ne renonceront pas pour autant. Il y aura encore une tentative de complot directement pilotée par nos services secrets. Mais Kadhafi, décidément bien protégé, étouffera dans l'œuf ce putsch en préparation. Ça coûtera d'ailleurs très cher à l'officier du SDEC qui était à l'initiative de ce projet.
C'est-à-dire ?
Il sera purement et simplement limogé. Toutefois, en 1981, les services occidentaux, en liaison avec les Égyptiens et même les Israéliens, vont concevoir une opération d'envergure pour renverser Kadhafi.
Vous avez parlé des services occidentaux. Alors, la CIA en est donc ?
Oui, Reagan est entré à la Maison Blanche au début 81 et ça change tout.
Avec l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche, la politique états-unienne va en effet changer radicalement. Et voici comment l'analyse Stanley Hoffman, un célèbre professeur de Harvard, dans un numéro du Monde diplomatique de juillet 1986. Lorsque, en 1981, M. Ronald Reagan devient président, il semblait devoir apporter à la politique étrangère des États-Unis un grand nombre d'innovations moins par rapport à la dernière année de la présidence de Carter, marquée par la reprise de la guerre froide et par l'accroissement du budget de la défense, que par rapport aux années 69-79, celles de la détente. Parmi les idées que le premier secrétaire d'État de M. Reagan, le général Haig, annonçait comme désormais décisives, figurait la priorité à la lutte contre le terrorisme. Elle devait, disait-il, remplacer celle que M. Carter avait paru donner aux droits de l'homme. Avant tout, l'idéologie reaganienne, soutenue tant par la droite du Parti républicain que par les intellectuels néoconservateurs, envisageait les relations internationales sous l'angle du conflit entre les États-Unis et l'URSS, jugés responsables de la plupart des désordres régionaux, soit parce qu'elle les avait provoqués, soit parce qu'elle les exploitait. Enfin, la stratégie d'endiguement de l'URSS était une fois encore, comme par John Foster Dulles en 1952 et bien que d'un autre point de vue par Henry Kissinger en 1969, jugée insuffisante. Une lutte plus vigoureuse contre l'expansionnisme de l'URSS et des alliés de Moscou était annoncée. C'est donc dans le contexte de ce changement de politique qu'il faut écouter la suite du propos de M. X.
Pour Reagan, c'est clair, Kadhafi est une sorte de communiste fou, ce qui n'empêche d'ailleurs pas de faire des affaires, au moins jusqu'en 1983-84. Mais il est vrai que dès son arrivée au pouvoir, le nouveau président est très sensible à toute initiative qui pourrait nuire au colonel libyen.
Et vous m'avez parlé d'un projet d'envergure, hein. Et il semble me souvenir que vous en avez déjà parlé.
Oui, alors résumons. Ce projet implique la CIA, le SDEC et les services égyptiens et israéliens qui, depuis les accords de Camp David, peuvent désormais travailler ensemble.
Oui, mais de quoi s'agit-il exactement?
Le point de départ, c'est une supercherie. Une fausse attaque libyenne en territoire égyptien.
Ah, mais comment là?
C'est très simple. Des chars de fabrication soviétique, comme ceux qui équipent l'armée de Kadhafi et qui sont peints en couleur libyenne, sont déposés dans le désert égyptien, pas très loin de la frontière entre les deux pays. Et on fabrique de toutes pièces un simulacre de combat. Des journalistes sont transportés sur place.
Ah oui, parce qu'il y a des journalistes invités à constater la réalité de cette pseudo-agression libyenne.
Naturellement. J'ajoute que le scénario prévoit aussi la présence de quelques cadavres revêtus de l'uniforme libyen.
Des cadavres, oui.
Quand on veut bien se donner la peine, on trouve toujours ce qu'on cherche. Alors les Égyptiens avaient le choix, condamnés, exilés, libyens. Mais passons, si vous le voulez bien. L'important, c'est la deuxième phase de l'opération. Pour riposter à l'agression libyenne, des mirages portant des cocardes égyptiennes attaquent la Libye, bombardent la capitale Tripoli et les principaux centres du pouvoir, tandis que des exilés infiltrés proclament le renversement de Kadhafi.
Et attendez, là, ces mirages aux couleurs égyptiennes
Ce sont en réalité des appareils israéliens maquillés, pilotés par des Israéliens. Un dernier détail, le plan prévoit que plusieurs bâtiments américains croiseront au large des côtes libyennes.
Au même moment, oui. Mais à ma connaissance, ce plan ne sera jamais appliqué.
C'est parfaitement exact.
Alors pourquoi?
S'il y a eu des changements à Washington, il y en a aussi à Paris.
Ouais. Alexandre Mitterrand,
c'est ça? Oui. Et pour Washington, c'est une vraie tuile. Car les Américains n'avaient à aucun moment envisagé l'élection en France d'un président de gauche. Mitterrand est informé de l'existence du plan anti-Kadhafi par Giscard d'Estaing lors de la passation des pouvoirs.
Vous en êtes certain, ça?
Absolument. Dans ses mémoires, le président Giscard d'Estaing a reconnu qu'il avait été question de la Libye lors de l'entretien qu'il avait eu avec son successeur. Ça a été aussi confirmé par Jacques Attali, le sherpa de François Mitterrand.
Oui, j'imagine que le président socialiste n'est pas enthousiaste.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, l'opération avorte.
Pourquoi? Parce que les autres partenaires ne pouvaient pas se passer de la collaboration des services français?
Si, ils le pouvaient. Mais ils ont estimé que la présence à l'intérieur du gouvernement français de ministres communistes représentait un risque. Il pouvait y avoir une fuite en direction de Moscou. Et ça aurait fait capoter toute l'opération qui ne reposait que sur la crédibilité de cette prétendue agression libyenne en Égypte. Et nous en avions parlé à l'époque. Cette affaire aura une conséquence dramatique.
Quoi?
L'assassinat du président égyptien, Anwar El Sadat, quelques mois plus tard.
Une vengeance de Kadhafi?
Je le crois, oui.
Il y aurait donc quand même eu une fuite.
C'est très probable. Kadhafi avait l'œil sur ses compatriotes exilés.
Oui, au besoin, il les faisait assassiner.
Oui, alors l'un de ces types a dû parler. Ensuite, ça n'a pas été trop difficile de persuader quelques extrémistes islamistes qui n'avaient toujours pas digéré Camp David d'exécuter Sadat. Mais je m'éloigne. Si Mitterrand, et malgré les gesticulations libyennes au Tchad, décide de mettre un terme aux actions secrètes contre Kadhafi, Reagan, lui, n'est pas décidé à en rester là.
Mais pourquoi cette obsession? Parce que c'en est une, là.
Oui, parce que le président américain a placé au centre de son action la lutte contre le communisme et le terrorisme.
Et dans son esprit, c'est lié.
Oui. Washington considère alors de façon assez simpliste que c'est l'Empire soviétique qui nourrit le terrorisme, sans s'interroger un seul instant sur les véritables racines de ce terrorisme.
C'est-à-dire, en gros, le conflit du Proche-Orient.
En premier, bien sûr. Mais alors que les prédécesseurs de Reagan s'étaient impliqués fortement dans le règlement de ce conflit.
Jimmy Carter, surtout. Ouais.
C'est juste. Ouais. Reagan, au contraire, fera preuve d'une extraordinaire passivité. Puis il y a la guerre Irak-Iran. Elle se joue de façon atroce sur le terrain, mais pas seulement. De nombreux attentats sur notre sol en particulier seront directement liés à ce conflit. sans parler des prises d'otages au Liban ou des attaques meurtrières contre les forces américaines et françaises au Liban encore.
Ouais, c'est notre soutien à l'Irak qui est mis en cause là.
Et aussi notre refus d'honorer le contrat Eurodif passé avec l'Iran. Mais je n'insiste pas, tant nous avons souvent évoqué ce sujet, alors je reviens à ce que je voulais dire. Reagan va considérer assez rapidement que Kadhafi est l'ennemi numéro un de la paix dans le monde.
Il y croit ou il feint de le croire?
Ah, bonne question. Bien franchement, je ne sais pas.
Je vous trouve bien modeste aujourd'hui.
Oh, honnête, c'est tout. Je vais quand même essayer de vous répondre à ma façon. Au fond, peu importe ce que pense Reagan. Ce qui compte, c'est que ça arrange bien le président américain de présenter ainsi Kadhafi.
La personnification du mal, comme vous disiez tout à l'heure.
Oui, oui. On ne peut pas s'empêcher de penser à Bush. Mmh. Il y a des similitudes troublantes entre les systèmes de pensée des deux présidents.
Ouais, tous les deux, républicains et ultra-conservateurs.
C'est évident. Bush prie avant chaque réunion. Et Reagan voulait que dans les écoles, on enseigne parallèlement au darwinisme, le créationnisme, tel qu'il est décrit dans la Genèse. Mais encore une fois, je m'éloigne.
Oui, un peu, mais enfin... Permettez-moi quand même de me faire l'avocat du diable. Kadhafi a toutefois donné de nombreuses preuves de son implication dans des actions terroristes.
C'est vrai. Et avant même le durcissement des rapports entre son pays et les États-Unis, il a soutenu et protégé des terroristes notoires comme Carlos ou Abu Nidal.
Abu Nidal, dont un jour, vous avez promis de me parler.
Oui, je tiendrai ma parole. Et assez rapidement, si vous le voulez bien.
Magique, en fait.
Donc Kadhafi était loin d'être blanc-bleu. Il a aussi sans doute financé en Europe même des organisations terroristes comme l'ETA ou l'IRA.
Et le... FNC,
comme... Oui, je sais qu'on en a parlé, mais ça me paraît plutôt relever du folklore. Donc, je ne mésestime pas la capacité de nuisance de Kadhafi. Mais de là à tout lui mettre sur le dos, non. Non, car il existait d'autres pays tout aussi dangereux, et même plus dangereux.
Lesquels?
L'Iran, déjà cité, mais aussi la Syrie, par exemple, ou encore l'Irak.
Oui, mais c'est la Libye sur laquelle Ronald Reagan fait une fixation, c'est bien ça?
Oui, et ça s'explique très bien.
Alors, je vous écoute, là.
Bon, c'est très simple. La Libye est d'abord un petit pays. 3 millions d'habitants à l'époque. Un pays aussi relativement isolé, car en bisbille permanente avec ses voisins. En outre, la Libye disposait certes d'un armement considérable, mais relativement fruste.
Ouais, l'armement livré par l'URSS.
Et l'URSS, justement, je vous ai déjà dit que les relations entre Kadhafi et Moscou n'étaient pas excellentes. Ça signifiait donc que si les États-Unis tentaient d'attaquer la Libye, l'URSS ne se donnerait pas la peine de venir à son secours. Tout juste émettrait-elle des protestations diplomatiques.
Bon, alors je résume. Une opération militaire contre la Libye ne présentait pas de gros risques. C'est bien ce que vous voulez dire.
Exactement.
Ouais. Alors, encore une fois, on ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons avec l'actualité récente. En décidant d'attaquer l'Irak, Bush n'a pas choisi de briser le pays le plus dangereux pour la sécurité internationale, surtout depuis qu'on sait avec une quasi-certitude que Saddam Hussein ne détenait pas d'armes de destruction massive.
Ouais, là, je suis d'accord avec vous. Des pays comme la Corée du Nord ou l'Iran et même le Pakistan sont autrement plus dangereux. Mais Bush, comme Reagan, avant lui, voulait à tout prix prouver qu'il engageait la lutte contre le terrorisme après les attaques du 11 septembre. Et c'était plus facile de s'en prendre à l'Irak qu'à l'Iran ou à la Corée du Nord. Mais pour en revenir à la Libye, il fallait bien préparer les choses et justifier assez cyniquement une éventuelle attaque contre Kadhafi. Et je me propose de vous en parler lors de notre prochaine rencontre.
Pourquoi la Libye et pas la Syrie ou l'Iran? Dans Le Monde diplomatique de mai 1986, Paul-Marie de la Gorce donne son analyse qui rejoint celle de Monsieur X. Que les États-Unis aient concentré leur action sur ce pays s'explique donc aussi par d'autres raisons. Celles-ci pourraient être de nature stratégique ou, si l'on préfère, géopolitique. L'administration américaine, en effet, met souvent en évidence l'implication dans le terrorisme européen d'autres pays tels que la Syrie et l'Iran. Ce n'est pourtant pas contre eux qu'elle a lancé ses bombardiers, mais contre les côtes libyennes. La Syrie dispose d'un redoutable arsenal de missiles anti-aériens et d'une assistance militaire soviétique qui est l'une des plus importantes hors des frontières de l'URSS. Et l'Iran, le plus grand et le plus peuplé des pays de la région, engagé dans un formidable effort de guerre contre l'Irak, est relativement moins accessible aux bombardiers américains. La Libye, au contraire, est évidemment le plus faible de tous les pays de la rive sud de la Méditerranée. Kadhafi, le chien enragé du Proche-Orient. Ainsi le nommait le président américain Reagan. Kadhafi, qui est réellement devenu sa bête noire dès son entrée à la Maison-Blanche en 1981. M. X ne s'est pas fait faute de mettre en évidence quelques coïncidences troublantes avec la récente actualité et la politique états-unienne en Irak. Celle-ci en particulier, la Libye, comme plus tard l'Irak, va être accusée d'être le principal foyer de diffusion du terrorisme dans le monde entier. Et Washington finira par l'agresser militairement après avoir fabriqué de toutes pièces un dossier accusateur. Exactement comme George W. Bush et les prétendues armes de destruction massive de Saddam Hussein. Autre comparaison édifiante. Alors qu'il existait des pays autrement plus inquiétants en matière de soutien au terrorisme, la Syrie ou l'Iran par exemple, c'est la petite Libye qui est visée, parce que la cible est facile à atteindre. Il en sera de même avec l'Irak, un État ruiné, incapable d'opposer une réelle résistance militaire, alors même qu'il y a des pays beaucoup plus dangereux pour la sécurité du monde, la Corée du Nord, ou bien encore l'Iran, qui est sans doute à deux doigts de posséder l'arme atomique. Arrêtons la comparaison là, et avouez que c'est troublant, et qu'il existe des guerres dont l'objectif, la lutte contre le terrorisme, est d'abord à usage interne. Autre point notable relevé par M. X, dans le camp occidental, c'est d'abord la France qui a essayé de se débarrasser de Kadhafi. Et au fond, Ronald Reagan n'a fait que prendre la relève de Valéry Giscard d'Estaing.
Je reviens sur cette question car je ne voudrais pas choquer certains de vos auditeurs qui ont peut-être été directement des victimes du terrorisme. Je ne prétends pas que Kadhafi est un ange, bien au contraire. Et il s'est accoquiné avec des types comme Carlos ou Abou Nidal. D'autre part, il a financé de nombreux mouvements terroristes dans le monde entier.
Oui, mais vous m'avez aussi dit qu'il avait le dos large.
Certainement. On lui a attribué beaucoup plus de méfaits qu'il n'en a commis. Mais nous allons y revenir. Dès que Reagan entre à la Maison-Blanche, il se fixe deux priorités sur le plan extérieur. La lutte contre l'Empire du Mal.
L'URSS.
Oui, ouais. Et le combat contre le terrorisme. D'ailleurs, pour lui, c'est à peu près la même chose.
Parce qu'il pense que communisme et terrorisme marchent du même pas.
C'est certain. Ça participe du même mouvement de subversion. Contre l'URSS, on le sait, la politique réganienne sera d'une redoutable efficacité. En prenant son fumeux programme de guerre des étoiles, il acculera pratiquement Moscou à la faillite.
Ouais, la ruineuse course aux armements.
Ouais. Et d'autre part, en soutenant les Moudjahidines afghans contre l'armée rouge, il infligera à l'URSS l'une de ses plus grandes défaites. Mais en matière de terrorisme, c'est plus délicat. Il suffit pas de se payer de mots, il faut agir. Et très vite, la Libye va apparaître comme la cible idéale. D'abord, parce qu'il est vrai que Kadhafi, grâce à la manne pétrolière, finance un grand nombre de mouvements révolutionnaires.
Et ensuite, m'avez-vous dit, la semaine dernière, parce que les stratèges de la Maison-Blanche estiment qu'on peut s'en prendre à la Libye à peu de frais.
Oui, mais je vous rappelle rapidement pourquoi. D'abord, la Libye est relativement isolée.
Et fâché avec tous ses voisins.
Et tous ces pays arabes à qui elle a proposé un mariage et qui l'ont tous refusé. Ensuite, la Libye, sur le plan démographique, est un tout petit pays. 3 millions d'habitants dans les années 80. Enfin, si Kadhafi dispose d'un arsenal considérable, il s'agit en général d'un armement plutôt ancien et nullement sophistiqué.
Ouais, d'origine soviétique.
C'est exact. Alors l'URSS, justement, elle entretient des rapports plutôt compliqués avec le leader libyen. Moscou se méfie de ses foucades. En outre, il ne faut pas l'oublier, Kadhafi n'a aucune sympathie pour le communisme à la Brejnev.
Ouais. Donc on ne peut pas le ranger dans le camp de l'Est.
Absolument pas. Ça veut donc dire que si Washington tentait quelque chose contre la Libye, l'URSS ferait les gros yeux, mais se garderait bien d'intervenir.
Ouais. Alors pour toutes ces raisons, Reagan a pratiquement les mains libres pour s'attaquer à ce bouc émissaire.
Bah oui, c'est ce que je pense. Mmh. Encore faut-il trouver un prétexte pour châtier ce trublion.
Un peu comme les armes de destruction massive dans le cas de Saddam Hussein.
Tout à fait. Ouais. Et pour résumer de façon un peu simpliste, il faut noircir un personnage qui est déjà bien gris au naturel.
Ouais. Donc, au fond, c'est pas très difficile.
C'est juste. Kadhafi suscite l'hostilité d'un grand nombre de dirigeants. Des gens qui ne seraient pas fâchés de le voir renversé ou même pire.
C'est-à-dire ?
Assassiné.
Alors, comment les Américains vont-ils procéder ?
Je dois d'abord dire qu'il n'y a pas unanimité à la Maison-Blanche. En gros, il y a deux camps qui ne sont d'accord que sur un point. Il faut faire quelque chose contre Kadhafi.
Dans ces deux camps,
D'un côté, on trouve des modérés, et parmi eux, le secrétaire à la Défense, Caspar Weinberger, et cela prône un étranglement économique.
Ouais. Un embargo.
C'est ça, oui. Et en face, il y a les durs. Le secrétaire d'État, le général Alexander Haig, et son successeur, George Shultz. Et aussi la plupart des membres du Conseil national de sécurité qu'on retrouvera dans le fameux scandale de l'Irangate.
Ah ouais, le colonel North.
Et l'amiral Poindexter. Ces gens-là préconisent des actions ponctuelles, mais violentes, contre la Libye.
Et Reagan lui-même, alors ?
Il hésite, et finit par choisir les solutions des premiers.
Oui, mais c'est sanctions économiques seulement.
Oui, oui. Et le président penche d'autant plus de ce côté que jusqu'en 1983 au moins, les compagnies pétrolières américaines font d'excellentes affaires en Libye.
Ah oui. C'est donc le lobby pétrolier qui l'emporte.
Ah oui, on peut voir les choses comme ça. Mais c'est une victoire très provisoire, parce que les durs ne renoncent pas aussi facilement. Et ils ont un bon argument pour convaincre Reagan. La lutte contre le terrorisme est un excellent argument électoral.
Oui, parce que le président a décidé à se représenter.
C'est certain. L'élection aura lieu en novembre 84. Et il faut se préparer longtemps à l'avance. C'est pourquoi, dès le début de 83, le secrétaire d'État, George Shultz, tente un piège à Kadhafi.
De quoi s'agit-il ?
Mais il faut pousser le lire libyen à la faute.
Oui, une faute qui justifierait une action militaire.
Évidemment. Et le prétexte va être le Soudan.
C'est un de ces pays à qui Kadhafi a proposé en vain le mariage.
Oui, oui. Le Soudan est alors gouverné par un dirigeant très pro-occidental, le général Ghaffar Nimeri. Je ne rentre pas dans les détails, mais enfin le pays est très divisé, en particulier par des différents religieux qui se traduisent par de sanglants conflits. Et d'ailleurs, à la fin des années 80, il finira par sombrer dans un islamisme pur et dur. L'idée des Américains, qui vont agir en parfaite collaboration avec les Égyptiens, c'est de faire croire à Kadhafi qu'il existe au Soudan une cellule révolutionnaire pro-libyenne et qui demande son aide pour renverser Nimeri.
Et c'est bidon ?
Dans une large mesure, oui.
Alors Kadhafi marche ?
Exactement. Il doit penser que s'il vient en aide à ses révolutionnaires, il pourra enfin réaliser son rêve d'union avec le Soudan. Par conséquent, au début 1983, il envisage très sérieusement d'engager son aviation pour soutenir ses partisans soudanais.
Mais le piège alors ?
Ben, il consiste à intercepter les bombardiers libyens et à les abattre.
L'aviation américaine ?
Non, non, les Égyptiens, soutenus, il est vrai, par plusieurs avions radars américains.
Ah oui, les fameux AWACS.
Oui, et effectivement, quatre de ces monstres de technologie sont envoyés en Égypte. Mais leur arrivée n'est pas aussi discrète que les Américains l'auraient souhaité. En effet, à cause d'une tempête de sable, ces gros avions sont obligés de se poser sur l'aérodrome commercial du Caire.
Et leur présence doit étonner,
ça. Bah, bien sûr. Autre pépin. Une chaîne de télévision américaine mange le morceau et annonce que ces AWACS ont pour mission d'assister la chasse égyptienne au cas où la Libye attaquerait le Soudan. Bon, la conséquence, vous devinez.
Oui, Kadhafi annule l'opération.
Naturellement. Et à Washington, pour masquer l'échec du piège tendu à Kadhafi, on fanfaronne. Grâce à la présence de ces AWACS, on a dissuadé le leader libyen de tenter de renverser le président Nimeri.
Ce qui, au fond, n'est pas totalement faux. Hein.
Sans doute, mais ce n'était pas du tout le but recherché. L'objectif, c'était de prendre Kadhafi en flagrant délit.
Ouais. Et la suite, parce que j'imagine que les durs de la Maison-Blanche ne vont pas en rester là.
C'est évident. Et Kadhafi va leur donner des verges pour se faire fouetter. En 1984, je ne sais pas si vous en souvenez, se produit un incident très grave devant l'ambassade libyenne à Londres.
Je crois me rappeler, là, des hommes postés à l'intérieur du bâtiment tirent sur des opposants qui manifestent.
C'est ça. Ouais. Et une femme policier britannique est tuée. À Londres, on ne plaisante pas avec ce genre de choses et la Grande-Bretagne rompt aussitôt ses relations diplomatiques avec la Libye. Ce qui n'empêche pas Kadhafi d'annoncer qu'il va envoyer des commandos traquer ses opposants exilés, où qu'ils soient dans le monde.
Une annonce suivie
des
faits.
Oui, 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 des attentats frapperont des dissidents libyens un peu partout dans le monde. Et vous l'imaginez, ça ne redore pas son blason. Ouais. Mais il est d'autant plus déterminé qu'il sait que les États-Unis ont entrepris de soutenir activement ses opposants.
Ouais, au fond, comme les services français l'avaient fait quelques années plus tôt.
Hein. C'est parfaitement exact. Mais encore une fois, la police de Kadhafi est bien faite. Et toujours en 1984, une tentative de coup d'État perpétrée par des exilés libyens aidés par les Américains va se traduire par un véritable désastre humain. 75 officiers seront arrêtés et fusillés science tenante.
Mais justice expéditive.
Oui, hein, ça. Kadhafi déteste qu'on lui résiste ou qu'on mette en cause son leadership. Mais cette succession d'événements va forcément donner lieu à une escalade entre Reagan et celui qu'il traite de chien enragé et qui est maintenant devenu sa bête noire.
Pourquoi, à Washington, semble-t-on si désireux de s'en prendre à la Libye ? Deux journalistes américains, David Martin et John Walcott, font l'analyse suivante. Une analyse qui reprend d'ailleurs partiellement les propos de M. Hicks. Il est plus difficile de s'attaquer à l'Iran avec ses 42 millions d'habitants, d'autant que Téhéran est désormais impliqué dans le processus de négociation secrète engagé pour libérer les otages, l'Iran Gate. La Syrie, elle, est à l'abri du fait de son traité d'amitié avec l'URSS. Un raid sur Damas ne déclencherait peut-être pas une guerre entre les deux superpuissances, mais refroidirait à coup sûr leurs relations. La Libye, par contre, n'a que 3 millions d'habitants, aucune négociation secrète en cours avec les États-Unis et pas davantage de traités avec l'URSS. Anatoli Dobrynin, l'ambassadeur soviétique à Washington, a même eu l'occasion de montrer que son pays prenait ses distances vis-à-vis de Tripoli. Dans une conversation privée avec Alexander Haig, alors que celui-ci était encore secrétaire d'État, il avait qualifié la Libye de « problème américain ». Les diplomates soviétiques ne manquent d'ailleurs jamais une occasion de qualifier le chef de la Jamaïria de fou. Si la Libye peut faire figure de petite sœur du terrorisme d'État, le danger qu'elle représente est exagérément et volontairement grossi à tel point qu'à la fin de 1985, elle semble être la menace la plus spectaculaire et la plus immédiate pour l'opinion publique américaine.
Vous parliez d'escalade.
Oui, une escalade qui va se produire sur plusieurs fronts. D'abord, Washington demande à tous ses ressortissants, essentiellement des hommes d'affaires, de quitter la Libye.
Ah oui, ça c'est l'asphyxie économique.
Et d'autre part, la Maison-Blanche envisage très sérieusement de susciter des frictions entre la Libye et ses voisins, l'Algérie et l'Égypte. Et si ça se terminait par un conflit armé, ce serait évidemment l'idéal.
Oui, ce serait en somme un peu la répétition de l'affaire soudanaise.
Enfin, toujours dans le but d'augmenter la pression sur Kadhafi, Washington décide d'organiser des manœuvres navales au large de la Libye, et surtout dans le golfe de Sirte, que Kadhafi a toujours considéré comme étant sa mer intérieure.
Ça, c'est de la provocation.
Incontestablement. Et là encore, on espère que le leader libyen va réagir et peut-être même attaquer les bâtiments et les avions états-uniens.
Pour pouvoir ensuite se livrer à des représailles.
Ah, c'est forcé. Mais encore une fois, c'est Kadhafi qui va aller au-devant des espérances de la Maison-Blanche.
Quoi, il va attaquer les forces américaines ?
Non, en commanditant des attentats terroristes, dont certains, sans doute, avec la participation du redoutable Abou Nidal.
Ah, Abou Nidal, dont je... Je vous répète, vous avez promis de me parler bientôt.
Oui, je le ferai, puisque je vous l'ai dit.
Pardon d'insister, mais enfin, il y a longtemps que j'attends. Hein.
Seriez pas un peu obstiné, monsieur Pénaud ?
Ben, peut-être. Enfin, je sais que de nombreux auditeurs sont impatients de vous entendre à ce sujet. Hein. Mais enfin, je vous en prie, poursuivez.
Bon, disons-le tout de suite, certains de ces attentats ne peuvent être attribués à Kadhafi. Mais ils vont créer un climat de tension tel que l'opinion, et surtout l'opinion américaine, se persuadera que le leader libyen est le diable en personne.
Le diable est donc le principal maître d'œuvre du terrorisme mondial.
Oui, oui. Enfin, ça commence en juin 85 par le détournement d'un Boeing de la TWA. L'avion qui transporte de nombreux passagers américains est détourné peu après son décollage d'Athènes. Il est dirigé sur Alger, puis sur Beyrouth. Cette prise d'otage va durer plus de 15 jours. Et un passager américain sera abattu. Aux États-Unis, où les chaînes de télévision ont largement couvert l'événement, l'émotion est intense.
Oui, mais est-ce que Kadhafi a une responsabilité dans cette affaire ?
Non, les preneurs d'otages sont des extrémistes chiites libanais. Enfin, peu importe. Kadhafi, je vous l'ai dit, est le dos large. 4 mois plus tard, nouvelle action terroriste. Des membres d'un groupuscule palestinien s'emparent d'un paquebot italien.
Ah, c'est là qu'il est là-haut,
c'est juste. Hein. Ouais. Un des passagers, un juif américain infirme, est froidement abattu. Nouveau traumatisme pour l'opinion américaine. Vous connaissez la suite.
Oui, les preneurs d'otages se rendent aux autorités égyptiennes, hein, c'est ça ?
Et Washington demande en vain leur extradition. Toutefois, au Caire, on a hâte de se débarrasser de ces types. Et on les expulse vers Tunis. Mais les services d'écoute américains l'apprennent. Et l'aviation US détourne leur avion vers l'Italie. Les preneurs d'otages sont inculpés par la justice italienne. Mais leur chef, Abou Abbas, réussit assez mystérieusement à prendre un avion pour la Yougoslavie.
Ce qui déclenchera un véritable incident diplomatique entre Rome et Washington.
Oui, et la série continue. Quelques semaines plus tard, un Boeing égyptien est détourné vers Malte par des hommes qui revendiquent leur appartenance à 4 organisations arabes. Et là encore, l'issue va être dramatique. Plusieurs otages sont liquidés. Un commando égyptien donne l'assaut. 61 personnes périront.
Ça commence à faire beaucoup pour cette seule année 85.
Et ce n'est pas fini. Fin décembre, en pleine semaine des fêtes, 2 commandos attaquent des comptoirs de la compagnie israélienne El Al, simultanément à Vienne et à Rome. Au total, il y aura 20 de morts et 10 de blessés. On soupçonne aussitôt la Libye et le groupe terroriste Abou Nidal. Et Reagan, sans attendre, met en cause Tripoli et décrète un embargo sur les échanges avec la Libye et un gel des avoirs libyens dans les banques américaines.
Ouais. Vous avez dit sans attendre quoi ? C'est attendre une enquête, une revendication ?
Bien sûr.
Ouais. Et votre avis alors ?
Oh, bah, dans ce genre d'affaires, on n'est jamais sûr à 100%, ce serait trop facile. Mais il est certain qu'Abou Nidal a de séjourné en Libye. Et il est probable que Kadhafi a donné un coup de main dans la préparation et le financement de ces 2 attentats. En tout cas, le leader a compris qu'il était désormais sur la sellette. Et il proclame que si on l'attaque, il mettra à feu la Méditerranée et le Proche-Orient.
Ah, c'est presque un aveu, hein ?
Ça y ressemble.
Alors, est-ce que Reagan va passer à l'action ?
Il y est prêt, oui. Et l'opinion américaine, chauffée à blanc, est prête à le soutenir. D'autant que des Américains ont été aussi enlevés au Liban. D'ailleurs, dès l'affaire du détournement de l'avion de la TWA, la CIA a élaboré deux plans. Le premier, nom de code, Tulip, vise à renverser Kadhafi en se servant d'opposants libyens.
Oui, mais on sait que jusque-là, ce genre d'opération a échoué.
C'est exact. Alors en même temps, les services américains mettent au point un deuxième plan, Rose. Et là, c'est beaucoup plus sérieux.
Pourquoi ?
Parce que les Américains envisagent de s'impliquer directement, enfin militairement, je veux dire. Il est en effet prévu que l'aviation US interviendra en soutien lors d'une attaque aérienne perpétrée par l'Égypte.
L'objectif, là ?
C'est le casernement où réside habituellement Kadhafi qui sera visé.
Ouais, on veut donc l'assassiner.
Sans nul doute.
Ouais. Mais je croyais que depuis 1975, et la cascade de révélations là, sur les mauvais coups de la CIA, il était désormais interdit à la centrale de s'en prendre physiquement à des dirigeants étrangers.
Vous avez tout à fait raison. Mais Reagan n'en a cure. Et lors d'une réunion entre militaires et dirigeants de la CIA, il l'a dit crûment, oui, il faut liquider Kadhafi. Et s'il le faut, il assumera personnellement la responsabilité de cet assassinat.
Ah ben voilà, qui a le mérite d'être clair. Et au-delà de l'assassinat de Kadhafi, que prévoit ce plan qui porte le joli nom de Rose ?
À Washington, on pense que la disparition du leader libyen provoquera un tel choc qu'il sera ensuite aisé aux opposants de renverser le régime.
Et en cas d'échec ?
Les spécialistes de la CIA estiment que là aussi, le choc psychologique produit par cette attaque encouragera les militaires libyens à se révolter et à s'emparer de Kadhafi et du pouvoir. Mais la difficulté, c'est peut-être de convaincre les parlementaires américains les plus influents de donner leur aval à cette opération destinée, en principe, à frapper le terrorisme au cœur.
Des parlementaires méfiants, j'imagine.
Ouais, surtout quand ils ont compris que le véritable objectif était la liquidation physique de Kadhafi. Alors la Maison-Blanche a décidé de mentir et d'agir à sa guise. Et notez-le bien, Reagan n'agira pas autrement dans l'affaire de l'Iran Gate, qui sera lancée sans aucun contrôle au Parlement.
Et donc illégalement.
C'est la vérité. Toutefois, il restait à justifier cette attaque qui serait un acte de guerre contre un pays indépendant. Il fallait trouver un habillage, si je puis dire. Et c'était d'autant plus urgent que les Américains avaient compris assez rapidement qu'il leur faudrait agir seul.
C'est-à-dire, sans les Égyptiens ?
Oui, le président Moubarak n'a aucune envie de se lancer dans une aventure incertaine. Et les Israéliens, sollicités à leur tour, refusent de participer.
Ah, c'est un coup dur pour Washington, ça.
Incontestablement, c'est un duel États-Unis-Libye qui va s'engager. Un duel forcément inégal.
À la lecture des documents publiés sur cette affaire, on a vraiment l'impression que Ronald Reagan était littéralement obsédé par Kadhafi. Un seul exemple cité par le journaliste du Washington Post, Bob Woodward. En mars 1986, lors d'une réunion au sommet à la Maison-Blanche, on discute de la personnalité de Kadhafi. Je cite le célèbre journaliste. Le président s'intéressait particulièrement aux détails de sa vie privée rassemblée par la CIA. Lors d'un voyage en Espagne, à Majorque, les dirigeants libyens étaient maquillés et portaient des chaussures à talons hauts. Ses aides de camp lui avaient apporté un ours en peluche. Et apparemment, il n'avait pas confiance dans les draps de l'hôtel où il était descendu, car il envoya ses aides de camp en acheter des neufs dans différents magasins. Reagan revint à plusieurs reprises sur le thème de l'homosexualité de Kadhafi, observant à un moment, la penderie de Nancy est à la disposition de Kadhafi quand il veut. Et ils se voyaient eux-mêmes jouant les durs, flanquant une pâtée à Kadhafi, l'écrasant, ayant assez de cran pour l'insuffler à autrui, notamment à leurs alliés européens. Il y eut plus d'une allusion à la grenade. À un moment, Donald Reagan, le secrétaire général de la Maison-Blanche, demanda « Va-t-on utiliser des armes nucléaires ?» Et les autres sursautèrent. La réponse était non. Le chef d'état-major de la Maison-Blanche affirma qu'il avait seulement voulu s'assurer qu'on ne le ferait pas. Ça fait quand même un peu froid dans le dos, non ? J'ai extrait ces quelques lignes du livre de Woodward, « Guerre secrète ».
Une nouvelle fois, comme dans l'opération soudanaise avortée, il faut donc pousser Kadhafi à la faute. Dès le mois de janvier 1986, la 6e flotte américaine croise au large de la Libye. Et des chasseurs bombardiers F-111, basés en Grande-Bretagne, procèdent à des vols d'entraînement jusqu'au-dessus de la Turquie.
Ce sont ces avions qui seront chargés de frapper la Libye. Là.
Oui, et la manœuvre sera assez délicate, car ils devront être ravitaillés en vol à plusieurs reprises. Les pilotes s'exercent donc à respecter les rendez-vous nocturnes avec les avions citernes.
Et tout ça, ces manœuvres, ça ne doit pas échapper aux autorités libyennes.
Les exercices aériens, je ne sais pas, mais la présence de la 6e flotte, c'est évident, ça ne passe pas inaperçu. Il s'agit d'une véritable armada comprenant 2 porte-avions, 45 navires et plus de 200 avions. Il y a même des sous-marins atomiques d'attaque. face à ce qui apparaît comme une incontestable menace, Kadhafi fixe une ligne de mort.
Une ligne de mort, ça veut dire quoi, ça ?
C'est une ligne abstraite, empruntant le 32e parallèle, en deçà de laquelle ses avions ou ses bâtiments seront autorisés à ouvrir le feu en cas d'intrusion. Ce faisant, il élargit considérablement la limite de ses eaux internationales, puisque pratiquement tout le golfe de Sirte en fait dorénavant partie.
Sur le plan international, est-ce légal ?
Non, pas vraiment. Mais la menace est là, bien réelle. Et je pense que Kadhafi a compris que cette fois, les choses étaient sérieuses.
Oui, en fixant cette ligne de mort, alors il gesticule.
En attendant, oui.
Ouais, en attendant une attaque.
Oui, parce qu'on ne déplace pas une telle armada pour faire des rondes dans l'eau. Toutefois, pendant quelques jours, il ne se passe rien. Les militaires américains procèdent à leurs manœuvres et c'est tout. Mais à partir de la mi-février, la situation devient de plus en plus tendue parce que les pilotes américains commencent à flirter avec la ligne de mort fixée par la Libye.
Mmh. Réaction en face ?
Les MiG-25 libyens prennent l'air. On se frôle, on se jauge. Le moindre incident pourrait conduire à la déflagration.
Mmh. Mais il n'y en a pas ?
Non. Non. Et à Washington, on doit commencer à trépigner.
Ah oui, parce qu'on croyait que ce fou de Kadhafi aurait du mal à se contenir.
Oui, je le pense. Alors les États-Unis en remettent une couche, si je puis dire. Un troisième porte-avions arrive sur zone au mois de mars. Et comme Kadhafi ne bouge toujours pas, ce sont les Américains qui vont se livrer à une provocation.
Réellement une provocation ?
Oui, oui, parce que même si la ligne de mort de Kadhafi est fictive et pas très légale, les militaires de l'US Navy pouvaient s'abstenir de la franchir. Donc c'est clair, ils cherchent l'incident quand, fin mars, des bâtiments américains entrent dans le golfe de Sirte et que, simultanément, des chasseurs survolent la zone interdite.
Réponse de Kadhafi ?
Les batteries antiaériennes font feu, mais les missiles antiaériens SAM-5 ratent leur cible. Peu importe. Reagan tient enfin le prétexte qu'il cherchait. Quelques heures après, la flotte américaine coule un patrouilleur libyen et l'aviation en profite pour détruire plusieurs radars et batteries de SAM-5.
Alors là, c'est l'escalade.
Pas tout à fait. Car Kadhafi, bien qu'il ait déjà perdu une centaine d'hommes, est bien conscient qu'il est incapable de riposter de manière efficace tant la puissance de feu américaine est impressionnante. Mais il annonce toutefois son intention de se venger. Et ça, ça ne peut que satisfaire la Maison-Blanche.
Pourquoi ? Parce que les États-Unis pourront enfin se livrer à de vraies représailles ?
Naturellement, parce que tout est prêt. Les cibles ont été repérées et les pilotes des chasseurs-bombardiers des F-111 n'attendent que le feu vert de Washington. Et directement ou pas, Kadhafi va commettre la faute que Reagan attendait. Au début du mois d'avril, une bombe explose dans une discothèque de Berlin fréquentée par les militaires états-uniens.
Vous avez dit directement ou pas,
ça. Oui, oui. Ouais. Les services de renseignement américains affirmeront avoir capté des communications entre le bureau libyen à Berlin-Est et Tripoli. Mais aujourd'hui encore, on s'interroge sur la vraisemblance de ce message. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'Abu Nidal ait pris l'initiative de perpétrer cet attentat. Abu Nidal, qui nous le verrons bientôt, n'était pas un personnage très clair.
Oui, manipulé, vous voulez dire.
Pourquoi pas ? La police allemande n'aboutira pas aux mêmes conclusions que la CIA et dédouanera la Libye. En tout cas, quoi qu'il en soit, Reagan tient enfin son prétexte et il ordonne à ses F-111 de passer à l'attaque.
Des chasseurs-bombardiers qui, rappelons-le, décollent de Grande-Bretagne. Hein.
Et qui, en raison de l'interdiction de survol du territoire français décidée par le président Mitterrand, doivent faire un long détour avant d'atteindre les côtes libyennes. Enfin, là encore, rien n'est très clair.
Pourquoi ?
Parce que je pense que les Américains se sont affranchis de cette interdiction et ont pénétré notre espace aérien au niveau des Pyrénées.
Attendez, avec l'accord des autorités françaises ?
Pourquoi pas ? Le résultat, en tout cas, c'est que le raid sur la Libye est effectué et que la caserne où Kadhafi réside avec sa famille est frappée.
Ouais, le but étant, rappelons-le, de tuer le leader libyen.
Évidemment. Hein, ouais. Kadhafi s'en sortira de justesse, mais l'une de ses filles y trouvera la mort. Il y aura des dizaines de victimes. Ça aurait d'ailleurs pu être plus grave, car quelques-uns des F-111 ont connu des problèmes et ont dû revenir à leur base.
Mais c'est quand même un échec, puisque Kadhafi en a réchappé.
Certes. Mais psychologiquement, au moins, Ronald Reagan a marqué un point et chez lui, il grimpe dans les sondages. Quant à Kadhafi, il a subi un véritable traumatisme.
Ouais, parce qu'il a été frappé chez lui.
Et qu'il se rend compte que les Américains étaient très bien renseignés. Puis il y a la mort de sa fille.
Ouais.
D'ailleurs, pendant 24 heures, il garde le silence. Puis il prononcera un discours très violent à la télévision et il disparaît.
Il disparaît, où va-t-il ?
À son habitude, il va se ressourcer dans le désert, comme on dit aujourd'hui. Et on n'entendra plus parler de lui pendant plusieurs semaines. Et quand il réapparaîtra, on s'apercevra qu'il a recouvré tous ses moyens et qu'il est plus vindicatif que jamais.
Mmh. Est-ce que ce raid met un terme, au moins provisoirement, aux actions américaines contre la Libye ?
Non. Non, les faucons de la Maison-Blanche sont furieux d'avoir échoué à tuer Kadhafi et ils n'entendent pas en rester là. Il faut d'ailleurs noter que tout de suite après le bombardement, la voix de l'Amérique diffuse un message qui est clairement un appel au soulèvement des Libyens. Un appel et aussi une menace. Tant que Kadhafi sera au pouvoir, le peuple libyen devra en subir les conséquences.
C'est l'annonce d'autres raids, quoi.
Oui, et de nouveaux plans sont préparés en ce sens. À Washington, un homme surtout veut en finir avec Kadhafi.
Qui c'est, là?
Le colonel North.
Ah ouais, l'homme de l'Iran Gate, hein, celui qui a armé les contras nicaraguayens en vendant clandestinement des armes à l'Iran de Roménie.
Lui-même, oui. Et membre du Conseil national de sécurité, ne cesse de faire des propositions visant à liquider Kadhafi.
Quoi, par exemple?
Le minage des ports libyens, par exemple. Ou encore un nouveau raid aérien. Et même des débarquements d'opposants et d'agents de la CIA sur les côtes libyennes. Il imagine aussi d'organiser un contact téléphonique avec un dirigeant arabe complice. Les grandes oreilles américaines repéreraient aussitôt l'endroit d'où téléphone Kadhafi. Et les avions US entreraient aussitôt en action. Mais ces initiatives sont repoussées les unes après les autres.
Pourquoi la Maison-Blanche renonce là?
Oui, si l'opinion américaine a massivement approuvé le raid contre Tripoli, n'en a pas été de même à l'étranger. À l'exception de la Grande-Bretagne, bien sûr. En outre, à cause du scandale de l'Iran Gate, les faucons de la Maison-Blanche vont peu à peu être écartés. Alors à Washington, on en revient aux méthodes classiques.
Soyez plus précis.
Essayer de miner le régime de l'intérieur, ou faire croire à Kadhafi que les États-Unis vont unir leurs efforts pour intervenir militairement au Tchad afin d'infliger une raclée aux troupes libyennes.
Ouais. Enfin, observons quand même que 20 ans plus tard, même s'il a récemment fait patte de velours, Kadhafi est toujours là.
Et vous avez raison de souligner ce point. Toutefois, cette affaire a eu deux conséquences. La première, qui n'est pas la moindre, c'est que ce raid américain a contribué à radicaliser Kadhafi dans sa haine de l'Occident. Et l'implication de ses services dans les attentats contre le DC-10 du TA et le Boeing 747 de Lockerbie s'explique sans doute ainsi.
Et vous avez parlé d'implication et pas de responsabilité.
Oui, parce que je ne suis toujours pas certain que le commanditaire ait été Kadhafi lui-même.
Oui, mais des Libyens ont été mêlés à la préparation de ces deux attentats.
C'est certain. La deuxième conséquence est moins connue. Pour mettre au point leur raid aérien, les Américains avaient déplacé l'un de leurs satellites géostationnaires dont les caméras étaient ordinairement braquées sur l'Europe de l'Est. Résultat, quand l'explosion de Tchernobyl se produira en avril 86, les Américains seront aveugles. Alors même que leurs observations satellitaires auraient permis de donner de précieuses informations sur la réalité de la catastrophe.
Seymour Hersh, le célèbre journaliste d'investigation américain, a publié en 1988 une enquête sur le raid contre la Libye. Pour lui, il ne fait aucun doute que son objectif était l'assassinat de Kadhafi, je le cite. Après le bombardement au soir du 14 avril, Ronald Reagan fit une déclaration télévisée sur les chaînes nationales. L'implication de la Libye dans l'attentat contre la discothèque de Berlin est directe, précise, irréfutable, déclare-t-il. Nous avons des renseignements détaillés sur d'autres attaques préparées par Kadhafi. Les bombardements, dit-il, étaient une série d'opérations contre les quartiers généraux, les bases terroristes et les infrastructures militaires soutenant les activités subversives de Muammar Kadhafi. Nous autres, Américains, ajouta le président, nous prenons du temps pour nous mettre en colère. Nous cherchons toujours des voies pacifiques avant d'utiliser notre force. Et nous l'avons fait cette fois encore. Nous avons tout essayé. Des approches diplomatiques, des condamnations publiques, des sanctions économiques, des démonstrations militaires, sans résultat. Selon un responsable du Conseil national de sécurité, le texte du discours comportait des paragraphes entre crochets à utiliser par le président au cas où la mort de Kadhafi serait certaine. Leur contenu devait faire écho à l'analyse d'un juriste du département d'État. Les États-Unis ont légalement le droit de rétorsion pour éviter des attaques ultérieures.